Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Aujourd'hui, nos ribines passent par les papilles et nous promènent à travers le temps à la faveur d'une journée d'études au pôle universitaire de Quimper ce 21 novembre 2025. Archéologie et histoire des pratiques alimentaires, de la proto-histoire à l'époque moderne, voilà pour le titre de cette journée co-organisée par le pôle universitaire, la faculté des lettres et sciences humaines, le centre de recherche bretonne et celtique, le CRBC, et le centre François Viette de l'université de Bretagne occidentale. Au programme, ou plutôt au menu, des conférences, des posters présentés par les étudiantes et étudiants en licence mention histoire de l'art et archéologie, et même des dégustations proposées et commentées par Julie Amselem, elle-même est étudiante de la licence, mais également plasticienne et cuisinière professionnelle.
Comme vous le savez, dans l'Antiquité, toutes les connaissances et donc les recettes étaient transmises à l'oral, et il a fallu attendre les moines copistes à l'époque médiévale, en fait, pour retranscrire ces recettes, les agrémenter, et puis après diffuser grâce à l'imprimerie. Et c'est ainsi qu'on a pu garder au moins les traces des recettes antiques. Il faut savoir que ces recettes ne comportaient pas de dosage d'ingrédients, et qu'il y avait une... En fait, il fallait avoir être cuisinier ou maître queue avec des connaissances importantes, on va dire, pour improviser et réaliser ces recettes. Et ce que vous allez déguster là, en fait, c'est une interprétation de recettes existantes auxquelles j'apporte une touche personnelle. Et je tiens en tout cas à préciser que ce sont des recettes historico-compatibles. Et ce que je vais imaginer est très inspiré par la peinture et par les objets du quotidien. Et c'est pour ça aussi que je vous parle d'interprétation, parce que la nourriture, c'est quelque chose qui est vivant, qui est en mouvement. Et si... Ce qui m'intéresse moins, on va dire, c'est de reproduire des choses qui n'existent plus aujourd'hui, en fait, parce que les goûts ont changé et parce que les aliments eux-mêmes ont changé et on a eu d'autres aliments qui sont arrivés. Et je précise aussi que ma démarche est essentiellement artistique, parce que je suis plasticienne et cuisinière, et qu'interroger l'histoire de la cuisine, ça me permet de comprendre ce qu'on mange aujourd'hui, en fait, et de la mettre en lien avec l'histoire de l'art, c'est ce qui m'intéresse particulièrement. Ça vient nourrir mon travail, si je peux dire ça comme ça, et ça me permet de raconter des histoires avec les aliments comme moyen d'expression. Et pour cela, je remercie très chaleureusement Christina Gandini de m'avoir proposé de participer à cette journée d'études. Ça m'a enthousiasmée de pouvoir mettre en application ce que j'ai pu apprendre et approfondir pendant ces cours, ainsi que ceux de ses collègues d'histoire de l'art et d'histoire, et de vous le faire partager. Mais je tiens juste à parler de ce pique-nique, on va dire, le mot n'est pas péjoratif, un pique-nique historique, qui est à manger dans l'ordre chronologique. Donc là, la partie antique, la partie médiévale et la partie renaissance, mais je réserve ça au moment de l'intervention de Florent Quellier, comme un petit plus, un petit clin d'œil.
Pour éviter l'indigestion, on va s'en tenir à l'Antiquité romaine. Et là, déjà, pas de repas sans pain. On l'a bien constaté dans les ruines de Pompéi, conservées par l'éruption du Vésuve en l'an 79.
Alors à Pompéi, depuis les premières fouilles au XVIIIe siècle, on a retrouvé à la fois des éléments de culture matérielle, c'est-à-dire des objets, des contenants, des plats, des poêles, des réchauds.
Delphine Acola, enseignante-chercheuse en histoire antique à l'UBO.
Mais également des peintures qui présentent des scènes de banquets, des natures mortes, des pains. Et puis, on a évidemment tout le cadre dans lequel s'exerce la cuisine, la vente de nourriture chaude dans des sortes de bars publics dans la rue. Donc tout ça, ça forme un tout avec le cadre d'exercice des pratiques alimentaires et puis les objets qui sont utilisés pour ces pratiques alimentaires et ainsi que, et c'est ce qui fait la grande originalité, une carbonisation en fait des éléments organiques. Donc toutes les graines, les fruits, des morceaux de viande, c'est desséché.
Donc on a presque pu reconstituer des recettes.
Alors on peut analyser aujourd'hui ce qu'on ne faisait pas au départ des fouilles, c'était évidemment hors de question à cause des méthodes scientifiques, mais aujourd'hui oui, on peut parfaitement analyser des déchets ou des résidus dans des contenants. C'est ce que fait la surintendance de Pompéi depuis les nouvelles fouilles de 2021.
Alors partons du bas d'échelle ou du plus quotidien, les deux. Qu'est-ce qu'on mangeait au quotidien à Pompéi et quand on n'avait pas beaucoup d'argent ?
Alors en fait, on avait une alimentation relativement équilibrée. Il y a des pois chiches, des fèves, beaucoup de pain. C'était une alimentation à base de pain. D'huile, évidemment d'olive. Et puis aussi, pour ceux qui sont plus fortunés, eh bien de la viande et du poisson. On a retrouvé, on analyse maintenant les déchets, les arêtes dans les égouts, les déchets de viande où on a abattu les animaux. Donc en fait, on avait une alimentation relativement variée.
Et alors, on avait une cuisine de rue. Enfin, je crois qu'il y a d'ailleurs une publication assez récente sur un établissement de cuisine de rue. Vous pouvez nous en parler de ça ?
Alors, les établissements de cuisine de rue, ce qu'on appelle les thermopolia ou les tavernas, en fait, ce sont des grands comptoirs avec des contenants assez larges qui sont intégrés dans le comptoir et dans lesquels aujourd'hui, en effet, scientifiquement, on peut analyser les résidus pour savoir ce qu'il s'y trouvait. Et en effet, récemment, là, par exemple, on a analysé ce qui se trouvait dans un comptoir de la région 5 de Pompéi, où en plus, le comptoir est peint avec des animaux. Alors, il y a du gibier, il y a un chien. Alors, on ne mangeait pas le chien, mais le chien devait être aussi une figure d'un chien qui appartenait au propriétaire en réel, hein, on va dire ça comme ça. Et puis, il y a aussi des poissons. Voilà, tout ça, c'est figuré. Il y a des œufs. Et ça illustre en fait une pratique qui est que quand on n'a pas une cuisine chez soi, parce que ça c'est réservé quand même aux gens qui ont des belles maisons avec des esclaves et un quartier pour la cuisine, et bien quand on n'a pas de cuisine, en fait on va vivre en fait d'une certaine manière dehors ou bien rapporter la nourriture chaude dans un contenant jusqu'à chez soi et puis on va la manger chez soi comme si on était un petit peu en camping si on veut faire un parallélisme aujourd'hui. Mais sinon on mange en effet dans ces établissements de rue.
Et alors c'est plutôt, évidemment il n'y avait pas de pizza, parce qu'il n'y avait pas de tomates à l'époque, mais est-ce que c'est plutôt du genre de sandwich ou est-ce que c'est un bol avec du ragoût dedans ?
C'est plutôt un bol avec du ragoût et on a beaucoup aussi l'idée de féculent qui est dans le pain. Hein. Donc là on ne sait pas exactement comment ils faisaient au niveau gestuel par rapport au ragoût en question, mais c'est sûr que les contenants dans les thermopolia, donc dans les espèces de tavernes, c'était à la louche qu'on allait puiser de la nourriture et qu'on mettait dans des bols, ça c'est certain.
Le pain de Pompéi qui semble être un peu la vedette du jour, c'est pourquoi est-ce qu'il est mis en valeur, ce pain en particulier ?
Parce que dès les premières fouilles, ce qui a frappé les archéologues de l'époque, ça a été la quantité incroyable de pain carbonisé qui était resté dans les fours. C'est-à-dire qu'on a un instantané d'une éruption, avec un instant T où tout s'est arrêté et où en fait le four est resté en état d'activité jusqu'à ce qu'il s'éteigne de lui-même après l'éruption ou en cours d'éruption. Et que les pains ont été surcuits, bien sûr, aussi par l'éruption, mais sont restés en place. Donc, imaginez la surprise d'un fouilleur quand il découvre la structure d'un four et qu'il plonge dans la cavité du four comme un four à pizza aujourd'hui. Hein, c'est la même structure. Et qu'il trouve des dizaines de pains en place. Et la forme du pain est conservée. C'est comme si vous aviez exactement un pain en plastique ou un vrai pain aujourd'hui, mais noir. Et vous avez l'empreinte parfois de la marque, en fait, avec le nom, hein, c'est des syllabes en latin, du boulanger qui a effectué ce pain. Donc c'était une découverte absolument extraordinaire qu'on pouvait corréler avec des fresques pompéiennes, c'est-à-dire des peintures, où on voyait des pains posés sur des étagères ou posés sur des tables. Donc en effet, c'était fabuleux de pouvoir mettre les deux en relation.
De la farine d'épeautre. Là, je l'ai et de la levure fraîche avec de l'eau, un peu d'huile d'olive et un peu de sel. Et puis le charbon pour colorer. Voilà. Il a été retrouvé à Pompéi, donc calciné. Donc c'est un petit clin d'œil. Voilà.
Et quant à son look, très joli, hein, est-ce que vous pouvez nous le décrire ?
Alors il est rond, avec divisé en 8 parts. En fait, ça servait à le prédécouper.
Je coupe. Allez-y. Même à la main, hein, vous pouvez y aller.
Ah oui, d'accord.
Parce que ça risque de...
D'ailleurs, je crois qu'il y a une boulangerie presque industrielle qui a été aussi publiée assez récemment ou fouillée.
Ah oui, alors ça, c'est l'appellation qui est un peu galvaudée dans les médias. Dans la nouvelle fouille, oui, de l'année dernière, le directeur a beaucoup médiatisé ça parce qu'il a expliqué qu'il y avait... toute une part de la population pompéienne dont on ne tenait pas assez compte, qui était une part servile, hein, les esclaves, qui travaillaient visiblement dans cette boulangerie, qui avait une forte capacité. En fait, elle n'a rien d'extraordinaire, mais c'est simplement un effet médiatique, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement classique dans sa structure, elle est parfaitement normale dans son organisation. Il a juste un petit peu mis en valeur le fait que ce soit une part de la population dont on parle moins, mais elle n'a rien de surnuméraire par rapport aux découvertes précédentes. Voilà.
Qu'il y avait plusieurs boulangeries de ce type dans Pompéi.
Il y en a un nombre incroyable. Vous avez des moulins pour moudre les grains et les fours qui sont associés immédiatement au même endroit et parfois un point d'adduction d'eau pour en fait mettre l'eau et faire lever la pâte, hein, qui sont analysables un peu partout dans Pompéi. Il y a des cartes qui sont faites avec la densité des fontaines, il y a des cartes qui sont faites avec les moulins à blé et autres céréales. Et ça, c'est dès le début des fouilles une prise de conscience que, je ne dis pas à tous les coins de rue, mais pas loin, enfin en tout cas non loin de chaque habitation, vous pouvez aller chercher du pain. Ça, il n'y a aucun souci. Et certains ont même de quoi moudre le grain et le cuire dans un petit four à domicile.
Pour s'ouvrir l'appétit, trempons notre pain dans une sauce de poisson dont raffolaient les Romains. On en fabriquait aussi chez nous, en Gaule, sur le site des Plomards, à Douarnenez.
Alors, les Plomards, c'est, on pourrait présenter ça comme une usine gallo-romaine, de l'époque gallo-romaine, qui a fonctionné entre le 2e et le 3e siècle, et où étaient produits des sauces de poisson, hein, dont on essaie de mieux comprendre les recettes et les étapes de fabrication. Donc il n'y a pas que des sauces, il y a aussi des salaisons de poisson, donc des sortes de conserves et des pâtes à base de poisson, et plus précisément ici de la sardine.
Christina Gandini, maîtresse de conférence en archéologie antique de l'UBO.
Alors, les Romains étaient très friands. Donc, la plus connue, c'est le garum, mais qui en réalité est un produit de luxe, donc est constitué à partir de sang, de viscères et de chair de poisson. Alors, en fonction des régions, hein, on va utiliser des espèces marines très différentes. Par exemple, dans le sud de l'Espagne, ce sera plutôt le thon qui sera utilisé. Ici, dans la baie de Douarnenez, c'est plutôt la sardine qui va être utilisée. Mais ensuite, ils peuvent utiliser toutes sortes de produits marins, hein, donc du poisson, des crustacés, des coquillages, pour fabriquer ces sauces. Donc le garum, produit de luxe. Et à côté de ça, on a des sauces qui sont plus ordinaires, plutôt utilisées pour la cuisine de tous les jours, comme la lec, le liquamen, les salsamenta, qui sont davantage des conserves de poisson. Donc il existe une gamme très variée à l'infini, comme nous dit Pline dans son Histoire naturelle, de sauce et salaison de poisson produite à l'époque romaine.
J'ai préparé un alec ici, donc le résidu du garum. Christina l'a présenté tout à l'heure. C'est vrai que, comme disait le directeur de l'UBO, vous présenter un garum et vous faire goûter un garum comme ça, ça aurait été juste horrible. Donc j'ai imaginé ça comme une sorte de petite tartinade voilà, que vous pouvez déguster avec le pain, ou, voilà, l'un ou l'autre. Et à manger, évidemment, avec la feuille de laurier, qui est quand même très représentative de l'époque romaine. Vous vous en doutez bien.
J'avais peur de manger quelque chose qui ressemblait un peu plus à du gnoc man, alors que c'est extrêmement bon.
Vous n'aimez pas le gnoc man ?
Si, mais sous forme de pâte, ça m'intriguait quand même.
Non,
c'est vraiment très très bon.
Et vous pensez que dans les foyers des Romains, donc en toute domesticité, ils fabriquaient eux-mêmes leur sauce ?
Oui, on s'est attesté archéologiquement, donc ce sont des sauces qui peuvent être produites dans tout type de récipients, hein, dans des cruches, en céramique, dans des tonneaux, et pas uniquement donc, à une échelle industrielle comme au Plomard.
Et donc la Bretagne était vraiment productrice de garum et d'autres sauces de poisson ?
Oui, très productrice, puisqu'il y a une concentration très importante d'ateliers dans la baie de Douarnenez en particulier. Donc on connaît au total en Bretagne une trentaine de fabriques spécialisées dans ces condiments, avec une concentration particulière dans la baie de Douarnenez, où on a répertorié une vingtaine d'ateliers.
Ces ateliers-là sont apparus simplement à la période gallo-romaine ?
Non, alors ce sont des sauces qui sont... Les Romains n'en sont pas les inventeurs. Les origines, elles sont bien plus anciennes. Alors les spécialistes, hein, c'est un sujet qui fait l'objet de débats. Aujourd'hui, on pense que ce sont les Phéniciens et les Grecs, donc des 7e, 6e siècle avant notre ère, qui en seraient l'inventeur. Les Romains étant très friands de ces sauces et salaisons, ils en ont produit à une échelle industrielle et les ateliers, les fabriques, hein, se sont multipliés dans tout l'Empire romain, aussi bien dans la façade atlantique que dans le bassin méditerranéen.
Donc il y en avait déjà avant la présence des Romains ?
Oui, mais produites en plus petite quantité.
D'accord, c'était un condiment vraiment très, très diffusé en fait.
Incontournable et qui est utilisé dans la cuisine romaine en particulier, hein, pour assaisonner des viandes, des poissons, des légumes. Ils en mettent partout. Alors, on peut reconstituer les étapes du processus de fabrication, donc de la préparation du poisson jusqu'à la fabrication des sauces. Avant quoi, la pêche, alors archéologiquement, on connaît d'ailleurs des pêcheries, on connaît les techniques de pêche, et ils utilisent des filets, des navettes. Donc ça, c'est très bien renseigné d'un point de vue archéologique. Ensuite, donc, ils préparent les poissons. Et puis, ils vont les placer, on imagine, au fond des cuves, une couche de poisson, une couche de sel. Le sel est essentiel pour assurer la conservation, pour éviter la putréfaction des chairs. Sinon, ça pourrit et c'est immangeable, évidemment. Et puis, ils vont laisser macérer, infuser ça pendant un temps très variable, selon la sauce qu'ils désirent. Donc ça peut macérer plusieurs mois, jusqu'à 12 mois par exemple, dans ces cuves. Ça dépend des lieux, ça dépend des régions, ça dépend de la qualité qu'ils recherchent, ça dépend aussi de leurs clients, des moyens qu'ont ces clients.
Excusez-moi de vous couper, peut-être qu'ils avaient différentes cuves avec différents temps de macération.
C'est tout à fait possible, mais ça, on a du mal à l'identifier et je ne pense pas qu'archéologiquement, pour l'instant, on puisse le déterminer. Mais par contre, l'archéologie expérimentale joue justement un rôle important parce qu'on reconstitue les recettes pour connaître les étapes de préparation, savoir à quel produit on va aboutir, les différents types de produits, les différentes qualités entre le garum, la lèque, le liquamen, etc.
Et ensuite, alors, en termes de logistique, enfin, est-ce que vous avez une idée déjà du nombre de personnes que ça demande pour faire marcher cette exploitation-là?
C'est une excellente question et je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Plomards, c'est une des plus grosses usines de l'ouest de la Gaule et de la baie de Douarnenez. C'est une des mieux conservées. Mais par contre, le nombre de personnes qui travaillaient dans ces usines, je ne pourrais pas vous répondre.
Alors comment ça se passait ensuite? On extrayait le garum, on le filtrait par exemple ou autre et on l'envoyait? Donc vous avez travaillé là-dessus, vous le savez, un petit peu?
Alors, c'est toute la question, justement. Après, on le filtre. Par contre, les récipients qui permettent de le conditionner et puis de le commercialiser, on ne les connaît pas. Et c'était toute la question, justement, de cette présentation qui a été faite avec un collègue, Dimitri Simon, qui est céramologue, qui est en train d'étudier, justement, de reprendre toute l'étude du mobilier céramique de ces cuves. Alors, on avance plusieurs hypothèses. Est-ce qu'ils ont utilisé le tonneau, par exemple, pour conditionner ces productions? Mais on n'en a pas de traces archéologiques, puisque le bois se conserve uniquement dans des milieux spécifiques, humides ou anaérobie. Est-ce que ce sont des emballages en céramique, donc il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été avancées, des petits pichets en céramique pour une production de détail, de luxe, des vases plus importants. Et donc justement, les analyses biochimiques qui ont été réalisées sur certains de ces vases, c'est toute la question de savoir, de déterminer ce qu'ils ont contenu et est-ce qu'ils ont servi de vases à garum, donc d'emballage pour commercialiser ce produit.
Et on n'a pas de traces d'historiens latins, romains?
Alors, les historiens romains ou l'iconographie, par exemple, sur la représentation de peintures murales à Pompéi ou sur des mosaïques, nous montrent des emballages en céramique plutôt. Je pense par exemple au fameux Ursei de Scaurus, qui était un riche producteur et marchand pompéien, qui a vécu des années 25 de notre ère jusqu'à l'éruption du Vésuve, qui était spécialisé dans les sauces à base de maquereau, où il ajoutait sa petite touche personnelle. Et donc, lui, voilà, il a ses propres emballages, il en fait même de la pub avec ses mosaïques. Donc on connaît bien, pour l'Italie, pour le bassin méditerranéen, on connaît bien les emballages. Et on a les témoignages à la fois archéologiques, iconographiques et les textes. Mais pas pour la façade atlantique, pas pour le nord-ouest de la Gaule.
Passons au fromage à présent avec Dominique Frère, professeur d'histoire et d'archéologie à l'Université de Bretagne-Sud.
Alors, le fromage, donc, c'est évidemment un objet alimentaire qui ne résiste pas au temps. Déjà, la plupart des fromages ont été consommés justement par nos ancêtres. Et le fromage, par définition, donc, ça ne se conserve pas. On a quelques fragments de fromage qui sont conservés, à Herculanum et Pompéi en particulier, des fromages carbonisés. On a aussi des fromages qui sont retrouvés en Égypte, par exemple, qui sont parmi les plus anciens. Mais hormis ces contextes bien particuliers, évidemment, les fromages ne résistent pas au temps.
Quand est-ce qu'on peut dire qu'on a commencé à faire du fromage ?
Ça c'est simple, hein. On commence à faire du fromage au début du néolithique. On pensait au départ que le fromage, on va dire les produits laitiers en général, parce qu'évidemment il n'y a pas que le fromage, que les produits laitiers c'était, on va dire, des produits secondaires pour l'invention, la domestication des animaux. Mais on s'aperçoit que maintenant, justement, la définition du fromage, c'est une conserve de lait. À partir du moment où on a du lait, il faut le conserver. Le lait, ça va se conserver 3 jours. Eh bien, le fromage, le lait fermenté, le beurre, c'est une conserve de lait. Donc, ce qui fait que depuis le début du néolithique, on fabrique des produits laitiers. On sait faire des produits laitiers.
En gros, on met le lait un peu sur le feu, mais pas trop près, c'est ça, pour la méthode de la plus rudimentaire.
Oui. Donc c'est ça, ouais. Et les faisselles, on va les retrouver partout, hein. On les retrouve au Moyen-Orient, au Proche-Orient, on les retrouve en Europe, on les retrouve en Écosse, on les retrouve en Pologne, on les retrouve en France. Donc les faisselles en céramique, donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreux endroits du monde, enfin dans les endroits où on faisait du fromage en tout cas.
Et justement, c'était quoi les premiers laits utilisés ?
Évidemment, on se fixe sur l'Europe, donc c'est brebis, chèvres et vaches, en sachant que dans l'Antiquité, c'était surtout et avant tout donc lait de brebis et lait de chèvre.
Et pourquoi ces animaux-là ?
Parce que c'était les animaux les plus communs. Quand je dis pour l'Antiquité, surtout l'Antiquité méditerranéenne, c'est d'abord brebis et chèvres. En Europe, Europe continentale, nord de l'Europe, c'est surtout du lait de vache donc qu'on utilise.
Que sait-on des ingrédients qui étaient éventuellement ajoutés à ces fromages ?
Alors ça, on sait parce qu'on a les textes donc, qui nous en parlent, et puis en particulier les textes des agronomes latins. Et en fait, on adorait les fromages aromatisés. Ça a été tendance pendant toute l'Antiquité, les fromages, et même fortement aromatisés.
À quoi ?
Alors déjà, beaucoup de fromages étaient fumés. Donc le fait de fumer les fromages, alors avec un double avantage, hein, ça donne du goût au fromage et ça permet une meilleure conservation du fromage. Et sinon, on aromatisait les fromages de manière différente. Les fromages aromatisés, c'est revenu à la mode. Vous allez sur le marché, vous allez avoir du fromage de chèvre qui va être aromatisé à l'ail des ours, par exemple. C'est des choses dont on a l'habitude, mais en fait, ce n'était pas du tout le même mode d'aromatisation à l'époque. On aromatisait en fait le lait au moment de la chauffe. Maintenant, l'aromatisation se fait à la fin du processus. À l'origine, c'était au début du processus. Et donc, on a aromatisé avec toutes les plantes aromatiques possibles et imaginables. Si on était riche, on aromatisait même avec des épices comme le poivre, donc par exemple. Et là, le fromage au poivre, là aussi, c'était le nec plus ultra de l'élite donc à l'époque romaine. Mais sinon, on aromatisait avec des pignons de pin, on pouvait aromatiser donc avec du thym, on pouvait aromatiser avec de l'aneth. Toutes les plantes aromatiques, en fait, permettait d'aromatiser le fromage.
Et le charme du fromage contemporain, c'est qu'il est salé. Est-ce que c'était déjà le cas dès le début ?
De toute façon, ça c'est une des définitions du fromage. Le fromage est de toute façon salé. Donc ça, on va dire, on a au niveau des ingrédients du fromage, les deux ingrédients principaux, c'est le lait, évidemment, et c'est le sel.
On en trouve des traces du sel, même si c'est difficile.
Non, le sel, lui, ne se conserve absolument pas. Et là, on ne peut avoir aucune trace matérielle du sel. Ça, on échoue, et puis on va encore échouer longtemps. Hein.
Mais en fait, si on sale pas un fromage, c'est en gros pas consommable, c'est ce qu'on se dit, non ? C'est pour ça qu'on est sûr qu'il y avait du sel dès le départ ?
Oui, il faut saler le fromage. Alors que le beurre, par exemple, on peut très bien faire du beurre doux. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se conserver, ça veut dire qu'il va acquérir un goût rance très rapidement. Sauf que beaucoup de populations, en fait, appréciaient ce goût rance. C'est toujours le cas actuellement. Hein. On voit dans l'Atlas, par exemple, le couscous, il est fait avec du beurre, mais du beurre rance. C'est une question de goût, hein, du beurre. Alors, dans dans le beurre, on peut se passer de mettre du sel. Par contre, dans le fromage, il faut mettre, donc il faut mettre du sel pour le conserver. Même dans le fromage frais, ouais, ouais. Ou alors, sauf si vous faites du fromage blanc. Mais là, du coup, vous le mangez très, très frais. Mais...
Et justement, qu'est-ce qu'on sait du degré d'affinage de ces fromages? Ils étaient plutôt consommés frais ou affinés?
Alors, dans l'Antiquité, c'est d'abord le fromage frais.
Vous avez, on va dire, une sorte de boursin moderne. C'est du fromage frais de chèvre auquel j'ai rajouté un petit peu de ricotta pour avoir quelque chose d'assez aéré, avec des herbes et des épices.
C'est le fromage frais que l'on aime. Et puis le fromage gras. Et la distinction entre fromage maigre et fromage gras, le fromage maigre, c'est un lait que vous avez écrémé avant de faire le fromage. Vous l'avez écrémé pour faire du beurre. Mais ce que l'on préférait dans l'Antiquité, c'était le fromage gras. Et ça, jusqu'au 19e, on fait la différence entre fromage gras. Et il y a des fromages gras qui sont encore plus gras que les autres, parce que donc, vous allez encore ajouter de la crème. Alors c'est le cas actuellement de certains types de fromages, comme le Fontainebleau par exemple. Donc on appréciait les fromages frais, gras. Et la notion d'affinage ne naît qu'au Moyen-Âge. Notion d'affinage, c'est quand le temps, donc on va utiliser différentes techniques, dont l'ajout de ferments, par exemple un traitement de la croûte, donc qui vont permettre au fromage de vieillir harmonieusement et d'acquérir des qualités gustatives différentes. Et donc beaucoup vont apprécier un vieux fromage qui a 1 an, 2 ans. Dans l'Antiquité, non. Dans l'Antiquité, la notion d'affinage n'existait pas.
Donc j'en déduis que finalement ces fromages étaient consommés localement, il n'y avait pas vraiment de commerce mondial, entre guillemets, européen en tout cas, du fromage.
Eh bien si, vous aviez quand même le centre du monde dans l'Antiquité romaine qui était Rome, la ville de Rome. Et dans la ville de Rome, donc, convergeaient des produits de toutes les provinces de l'Empire. Et on sait que l'un des fromages les plus appréciés à Rome, bah, devinez quoi, des fromages, on va dire, produits qui n'étaient pas de production italienne. Parce qu'évidemment, pour un Romain, le meilleur fromage, c'était un fromage italien. Ça va de soi. On a toujours été, le fromage, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on a toujours été chauvin. C'est le cas actuellement. Hein. Et dans l'Antiquité, c'était la même chose. Mais après, les fromages italiens, les meilleurs fromages, c'était les fromages gaulois. Et les fromages gaulois qui venaient en particulier de la région de Nîmes, par exemple. Bah là, pour la région de Nîmes, vous aviez une production, même intensive, de fromages qui étaient faits pour l'exportation et l'exportation à Rome. Et c'était l'élite qui consommait ces fromages gaulois qui étaient très, très réputés. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'on nous dit que ces fromages gaulois qui arrivaient à Rome étaient très, très bons, mais ils devaient être consommés très, très frais. Ils ne vieillissaient pas, ces fromages-là. Alors, ce qui est intéressant, parce que ça veut dire que du lieu de production de la région de Nîmes, les fromages devaient arriver en quelques jours à Rome. C'est-à-dire des circuits de distribution, là c'est un circuit maritime, mais avant qu'ils arrivent à un port, donc il fallait aussi des circuits de distribution. Donc tout était fait pour que les fromages arrivent très vite.
Donc, et transportés dans quoi?
Alors ça, le problème c'est qu'on ne peut pas savoir. Donc le fromage, après les fromages, ça peut être tout simplement transporté dans des paniers. Ça, le fromage, il n'y a pas de problème. Si vous voulez le conserver frais, vous pouvez donc le transporter dans une saumure. Tout simplement. Vous pouvez aussi le transporter dans des outres, ce qui se fait toujours actuellement, dans des outres en cuir. Vous pouvez les transporter dans des céramiques. Là aussi, il y a différents moyens de transport de ce fromage.
Il y a finalement pas mal de similitudes entre la cuisine antique et la cuisine médiévale?
Tout à fait. Sur 1500 ans, en fait, on retrouve beaucoup de similitudes. Alors la différence, que dans la cuisine médiévale, il y a la religion qui est venue mettre son grain de sel et qui est venue, en fait, encore plus codifier les choses, même si, bien sûr, dans l'Antiquité, les choses étaient très, très codifiées et les repas, notamment, l'étaient. Dans la cuisine médiévale, en fait, il y avait la cuisine pour les paysans, les pauvres, qui mangeaient tout ce qui était en dessous du sol, les légumes racines, le clergé. Et le troisième groupe, c'était les seigneurs, les notables, les aristocrates, qui eux pouvaient avoir des choses qui allaient vers le ciel, en fait, qui se rapprochaient de Dieu, comme les volailles, les gibiers, voilà. Et tout le monde n'avait pas droit à la même alimentation, bien évidemment, évidemment selon ses moyens, le milieu social auquel on appartenait.
Le Moyen-Âge, une autre histoire dont on parlera peut-être prochainement. En attendant, nous vous souhaitons une bonne digestion.